Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, et comme Laurence Perrault vous l'a promis, nous allons vous faire des câlins avec nos petites bêtes à poils et à plumes. Bonne année à tous, merci d'être avec nous. Bonjour Gaspard, bonne année.
Bonjour Natacha, bonne année à vous.
Vous avez l'air en pleine forme ce matin.
Bah écoutez, en pleine forme pour 2019.
Allez, bienvenue dans vos animaux. Alors avec les premiers frimas de l'hiver qui arrivent, nous allons vous conseiller pour gérer au mieux vos animaux pendant la période hivernale. Sont-ils plus exposés à certaines maladies lorsqu'il fait froid? Faut-il les nourrir différemment, leur mettre pourquoi pas un petit manteau? Continuez à les laisser sortir ou pas? Eh bien, c'est le docteur Fabien Klodzinski qui nous éclairera sur ce sujet. Et puis l'hiver, c'est aussi le moment de penser aux oiseaux qui habitent dans nos jardins, y compris en ville. Alors, dans notre séquence à l'état sauvage, mon second invité est un représentant de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, Richard Grège. Il nous expliquera comment on peut aider les petits oiseaux de nos jardins, ce qu'il faut leur donner à manger, quel type d'abri il faut leur mettre dans nos arbres, etc. Enfin, focus ce matin sur le refuge de l'Arche. Il est situé en Mayenne. Il est l'un des rares refuges capables d'accueillir des animaux sauvages maltraités ou abandonnés. Après avoir connu la captivité dans différents établissements, c'est Christian Hugedé, son fondateur, qui nous servira de guide. Merci infiniment d'être avec nous en ce samedi matin dans vos animaux. Tout de suite, le journal des animaux avec Gaspard.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et Gaspard, on commence avec une bonne nouvelle en ce début d'année qui nous vient de Californie.
Et oui, depuis mardi dernier, l'État interdit désormais aux animaleries situées sur son sol de vendre des animaux provenant d'élevage. Ces commerces ne pourront vendre des animaux que s'ils proviennent de refuges ou d'organisations à but non lucratif. Ils devront être capables de fournir une preuve de l'origine de l'animal sous peine d'être passibles d'une amende de 500 $ par bête. Il est néanmoins toujours possible d'acheter des animaux provenant d'élevage privé pour les particuliers, mais cela devient interdit pour les professionnels du secteur. Cette loi a été adoptée en raison du très grand nombre d'euthanasies d'animaux de refuge.
Et puis la Californie a toujours montré
un train d'avance
par rapport à d'autres États américains et même
si on se compare
à l'Europe par exemple, et notamment la France, ils sont en avance sur nous. Alors, chaque nuit de la Saint-Sylvestre, eh bien, de nombreuses disparitions d'animaux sont à signaler. Pourquoi donc, Gaspard?
On n'y pense pas forcément, Natacha, mais c'est la faute aux feux d'artifice qui effraient nos pauvres bêtes. Hein. Les bruits et les couleurs vives sont anxiogènes pour nos animaux, surtout pour les chiens qui cherchent à fuir le plus loin possible. Des animaux très difficiles à retrouver, Natacha, s'ils ne sont pas identifiés, alors qu'on rappelle à nos auditeurs que c'est obligatoire.
C'est non seulement obligatoire, mais c'est surtout très très utile quand son animal s'enfuit. On part maintenant du côté de Marseille pour finir avec une formidable nouvelle pour les amoureux des animaux.
Et oui, avec le salon Animal Mania qui a lieu aujourd'hui et demain, c'est en ce moment. Plus de 200 exposants, 2900 animaux sont inscrits à cette nouvelle édition qui a doublé en surface en 3 ans pour dépasser les 4500 m² de visite. Sur place, vous retrouverez des chiens, des chats, mais aussi toutes sortes de NAC, hein, on rappelle les nouveaux animaux de compagnie, et comme les dernières éditions, un espace consacré à la nature avec de nombreux exposants en fossiles, plantes et minéraux qui seront présents pour apporter une parfaite complémentarité aux animaux.
Très bien, merci beaucoup Gaspard. Tout de suite, vos animaux et vous.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors l'hiver s'installe, hein, ce matin les températures étaient très froide un peu partout en France, et avec l'hiver arrive son lot de virus, de bactéries qui n'épargnent pas forcément nos animaux de compagnie. Pour lutter contre les maux de l'hiver, le docteur Fabien Klodzinski va nous prodiguer ses bons conseils. Bonjour Fabien.
Bonjour Natacha, bonjour Gaspard.
Merci beaucoup d'être avec nous Fabien, vous êtes un habitué de cette émission, c'est toujours un plaisir de vous entendre et d'écouter vos conseils. Alors chez nous, être humain, on sait que l'hiver c'est souvent synonyme de risque de grippe. Une question peut-être que nos auditeurs se posent, les chiens et les chats peuvent-ils aussi attraper la grippe telle qu'on la connaît chez les êtres humains?
Alors, il y a des formes de grippe, mais c'est plutôt assez rare. Il y a des pathologies infectieuses qui peuvent ressembler à la grippe au niveau respiratoire, notamment chez le chat. La grippe du chat, on l'appelle vulgairement le coryza, en fait. Hein. C'est plutôt une pathologie respiratoire haute qui peut descendre sur les poumons. Et chez le chien aussi, qu'on appelle plutôt la touche chenille, même si, parce que la grande majorité des animaux, des chiens, notamment, sont vaccinés contre la grippe, hein, le para-influenza virus, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres maladies infectieuses, notamment, qui sévissent davantage en hiver que pendant les autres saisons de l'année ? Donc, on a parlé du coryza, de la toux de chenille, mais y en a-t-il d'autres ?
Alors, ça sera toutes les pathologies infectieuses, infections opportunistes, hein, qui vont profiter d'un affaiblissement de l'organisme, hein, dû au froid, dû aux conditions hivernales plus rudes. Il va y avoir des phases de gastro-entérite, on en voit un peu plus toute l'année, mais notamment au début d'hiver et puis en plein cœur de l'hiver, on voit beaucoup de gastro-entérite. Et puis il ne faut pas oublier quand même que la pyroplasmose, elle s'installe souvent fin d'automne, début hiver, et elle persiste maintenant tout l'hiver malgré des épisodes de fortes gelées, quoi.
C'est vrai que c'est une maladie qu'on a pendant longtemps attribuée plutôt à la période automnale, et puis avec le changement climatique, c'est certainement dû à cela. Aujourd'hui, cette maladie est persistante un peu toute l'année, effectivement.
Et puis, l'hiver, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est malheureusement des chats des rues, hein, des chats des rues affaiblis par leurs conditions de vie rudes, hein, qu'on retrouve en hypothermie.
Est-ce que les chiens et les chats supportent relativement bien le froid et l'hiver s'ils sont dans de bonnes conditions de santé ?
Là, il y a autant de différences entre les chiens qu'il y a de race, en fait. Hein. Ça va dépendre si le chien est de petite taille, de petit poids, avec un poil court, avec un poil long. Les deux, typiquement, le chihuahua à poil court, lui, il va pas du tout apprécier le bouvier bernois. Il va se sentir enfin chez lui, quoi. Donc...
Ça veut dire, Fabien, que finalement, quand on voit des petits chiens avec des petits manteaux, il faut pas se dire systématiquement que c'est absolument ridicule. Ça peut avoir un intérêt pour certains animaux.
C'est absolument pas ridicule. C'est même indispensable, hein. Alors après, il faut quand même savoir raison garder, ne pas trop couvrir, découvrir quand on rentre. Ne pas couvrir un animal quand il fait 10-15 degrés dehors, c'est une hérésie juste pour...
À partir de quelle température ça paraît raisonnable de couvrir les petits animaux avec un poil court, les plus sensibles, les plus fragiles ?
Oui, aux alentours de 5-10 degrés, et puis après, sous 5 degrés, c'est la doudoune, quoi. On peut passer du petit polaire à la doudoune, par exemple, exactement comme nous, on va...
C'est vrai qu'aujourd'hui, les magasins sont très équipés et nous proposent plein de choses pour nos animaux.
Stéphanie a composé le 0826-300-300. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Vous souhaitiez intervenir sur cette problématique de l'hiver ?
Ah oui, bien sûr. Pour rapport aux maladies infectieuses, autant pour les chiens que pour les chats.
Oui. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Stéphanie ?
Alors, c'est qu'il était important quand même de les faire vacciner.
Ça, c'est sûr.
Voilà, parce que il y a malheureusement des maladies infectieuses qui sont mortelles et que les personnes pensent qu'en étant en maison tranquille au chaud, ne chope pas les maladies, sauf que les maladies, on les transporte nous-mêmes sous nos pieds, en rentrant à la maison, etc.
Oui, c'est pas parce qu'effectivement, voilà. On a un animal qui ne sort pas beaucoup, qui n'est pas en contact avec voilà. D'autres, qui ne va pas attraper de maladie. Vous faites bien de le préciser, Stéphanie, effectivement.
Oui, tout à fait, tout à fait. La maladie, on transporte en fonction de là où on va, hein, malheureusement, sous
bien
nos
sûr.
Chaussures, on arrive à la maison et voilà, on peut contaminer notre environnement.
Je me permets de vous couper, Fanny, mais d'autant plus chez les animaux vieillissants. Hein, même les
oui,
les animaux
tout à fait. Oui, parce qu'ils sont plus fragiles.
Il faut évidemment
oui, tout à
renforcer
fait.
Leur immunité.
Oui.
Merci
tout
Stéphanie de cette mise en garde pour nos auditeurs, tous les amoureux des animaux. Docteur Fabien Claudinski, quels sont les vaccins vraiment indispensables pour nos animaux de compagnie ? On va commencer par les chiens.
Alors, les chiens, c'est CHPPILR.
Alors, vous allez nous traduire, parce que oui. Là, vous parlez comme un professionnel que vous êtes.
Oui, c'est.
Mais je crains que tous nos auditeurs ne soient pas aussi calés que vous.
Non, bien sûr. Alors, c'est un groupe de vaccins, en fait. Il y a des vaccins de base, et puis après, il y a des vaccins un petit peu qui se font en fonction des conditions de vie de l'animal. Hein. Il y a les maladies de Carré, hépatite de rhubarbe, ça, c'est vraiment des pathologies de jeunes animaux.
Oui.
Et puis, il y a le para-influenza virus qui peut correspondre au virus de la grippe.
D'accord. Et en fait, on ne fait pas une multitude d'injections aux animaux, c'est souvent regroupé en un seul vaccin.
C'est regroupé dans un seul et même vaccin qui nécessite un rappel à un mois. La vaccination se commence dès 2 mois avec un rappel à un mois. Et si on veut rajouter un vaccin en fonction des conditions de vie, justement, en rapport avec la pyroplasmose, notamment, on peut en faire un. Alors celui-ci ne peut pas être fait en même temps que les autres, hein, parce que déjà, c'est déjà un cocktail parfois lourd hein, à supporter pour
bien
les
sûr.
Animaux.
Hein. Oui, ils peuvent être un petit peu malades après la vaccination, mais ça, c'est normal.
Oui, ça, c'est vraiment la réaction du système immunitaire à la stimulation du vaccinal. Hein.
Vous nous disiez que certains animaux étaient plus vulnérables, notamment les animaux âgés, on le comprend très très bien. Quelles sont les précautions particulières à prendre pour les animaux âgés?
Déjà, oui, en effet, la bonne vaccination, la bonne couverture vaccinale, la bonne couverture,
tout court.
Le manteau si c'est nécessaire, exactement. Et puis en effet, comme vous disiez tout à l'heure, on peut jouer aussi sur l'alimentation. Déjà, il n'y a pas que pour nous. Hein. Dès novembre, notre corps rejette les salades tomates et réclame de la raclette. C'est exactement la même chose. Hein.
Alors écoutez, on va peut-être pas préconiser la raclette pour nos chiens et nos chats, mais effectivement,
préconise pas la raclette, mais on peut augmenter les apports énergétiques de 10-15%.
L'aspect alimentaire est essentiel. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
L'hiver approche à grands pas. Il est même là dans certaines régions. Il fait très froid aujourd'hui. Et avec l'hiver, tout un cortège d'agressions comme le froid, les microbes. C'est aussi une période de ralentissement général pour la nature et pour nos organismes. Et nos animaux ne sont pas à l'abri d'une petite baisse de tonus. Alors, en compagnie du docteur Fabien Klodinski, nous disions il y a quelques instants qu'il était peut-être important au cours de l'hiver de modifier un petit peu la ration alimentaire de nos animaux. Fabien, de quelle manière on modifie cette ration alimentaire sur le ton de l'ironie ou de l'humour? En tout cas, tout à l'heure, vous nous parliez de passer de la salade verte à la raclette. Bon, on comprend bien que ce n'est pas le régime préconisé pour les chiens et les chats. Mais en tout cas, comment faut-il faire pour qu'ils aient une ration plus adaptée à la saison?
Une manière toute simple, c'est déjà soit d'augmenter la quantité d'aliments donnés, ou peut-être chez des animaux qui reçoivent vraiment des régimes très hypocaloriques pour des raisons de surpoids, de diminuer, de passer peut-être d'une alimentation à moins 30% en apport énergétique à moins 5% par exemple.
Oui, parce qu'en fait, quand il fait froid, l'organisme consomme plus de calories tout simplement pour se défendre contre le froid.
Exactement. Voilà.
Est-ce qu'on peut rajouter aussi peut-être quelques huiles un peu enrichies en vitamines dans l'alimentation? Je pense des huiles enrichies en vitamine E, par exemple.
Si c'est bien supporté, on peut utiliser des huiles. Nos grands-parents, hein, pour toujours faire un parallèle avec nous, utiliser des huiles de foie de morue, riches en oméga-3, en oméga-6, des huiles de poisson, mais on peut utiliser aussi un petit peu l'huile d'origine végétale, l'huile de colza, l'huile d'olive. Faut pas en utiliser en grosse quantité. Il faut peut-être essayer de varier les huiles pour apporter les bienfaits de chacune, quoi.
Alors Fabien, tout à l'heure, on a listé les vaccins indispensables pour les chiens. On va faire la même chose maintenant pour les chats, parce que tous les chats doivent être vaccinés, y compris ceux qui ne sortent pas, comme nous disait notre auditrice Stéphanie tout à l'heure.
Alors, pour les chats, c'est pareil. Hein. Il y a un mélange de vaccins. Ça se fait en une injection, voire deux en fonction du fait si on rajoute la leucémie féline, le FELV, sur des chats qui vivent en groupe ou qui sont amenés à sortir. Mais les trois grandes pathologies contre lesquelles on vaccine chez le chat, c'est le typhus, hein, une pathologie plutôt du jeune, un virus mortel hein, de gastro-entérite. Le coryza du chat.
Dont on parlait tout à l'heure, qui est un peu le pendant de la grippe, on doit faire un parallèle.
La grippe du chat pour faire comprendre aux propriétaires. Et la péritonite infectieuse féline, ça, c'est une pathologie mortelle à 100%. Et puis après, chez le chat et chez le chien, on n'a pas parlé de la rage. La rage n'est pas une vaccination obligatoire, sauf si on passe les frontières.
Bien sûr. Et puis la rage n'est pas liée à la température et au froid. Mais non. Effectivement, il faut se prémunir de cette maladie si on est dans un secteur où on est potentiellement exposé à cette maladie. Fabien, il y a une intoxication qui est vraiment liée à l'hiver. C'est l'intoxication aux produits antigels qu'on utilise pour les voitures. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est méconnu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se manifeste chez nos animaux ?
Alors, l'intoxication à l'antigel, elle est emblématique de l'hiver, évidemment. Hein. Elle se fait quand même de plus en plus rare. J'ai l'impression qu'on en voit de moins en moins, mais elle est tellement mortelle qu'il faut en parler. Hein. L'antigel qu'on met dans les voitures, c'est un produit qui est très appétant, qui a le goût sucré. Donc les chiens et les chats, enfin plus, surtout les chiens, ça arrive chez les chiens quand ils tombent dessus, eh ben ils en avalent tout de suite une grande quantité. Et alors là, ça provoque des insuffisances rénales aiguës avec des troubles neurologiques qui sont très 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 souvent mortels parce qu'on arrive un tout petit peu trop tard. Le temps qu'on s'en rende compte, il y a déjà une insuffisance rénale de mise en place. Et il faut arriver vite.
Alors, on rappellera donc les conseils de bon sens hein, à nos auditeurs qui sont les heureux propriétaires de chiens ou de chats. Tous les produits ménagers, on le dit très souvent, mais finalement, avec les animaux, c'est un peu comme les enfants. Tout ce qui est produits ménagers, produits de jardinage, raticides, antigels, etc., on met ça hors de portée des animaux. Et là, pour le coup, il ne suffit pas de les positionner en hauteur parce que les chats peuvent grimper. Et si vous avez un chat qui grimpe dans la maison, même si ce n'est pas lui qui mange les produits, c'est le chien qui peut derrière ramasser le produit. Donc, on met ça sous clé dans un placard, donc correctement fermé pour éviter toute forme d'intoxication. Et si on a le moindre doute, il faut aller tout de suite en urgence voir son vétérinaire. Fabien, parlons un petit peu de prévention par rapport à ces maladies de l'hiver. Alors là, on a vu toutes les maladies infectieuses, mais on sait que l'hiver, c'est aussi le moment où il y a beaucoup d'humidité. Et peut-être que les animaux un peu âgés souffrent davantage d'arthrose, notamment en cette période hivernale. Quels sont les bons conseils de prévention en matière d'arthrose pour vous ?
La bonne prévention en matière d'arthrose, c'est 1, la maîtrise du poids.
Oui, alors ça, c'est effectivement tout au long de l'année. Vous avez raison, il faut faire des régimes adéquats si vous avez un animal en surpoids.
C'est une médication adaptée. Hein. C'est pour prévenir les crises d'arthrose. Il est très très bon de donner des compléments alimentaires de type glucosaminoglycane ou chondroïtine sulfate. Vous pouvez vous rapprocher de votre vétérinaire pour.
À quoi vont servir ces compléments alimentaires ?
C'est des compléments alimentaires qui ils apportent des constituants du liquide synovial des articulations et du cartilage des articulations. Mais on s'est rendu compte scientifiquement qu'elles avaient plutôt un aspect anti-inflammatoire à bas bruit. Quoi. C'est pas un médicament, ça n'a aucun effet secondaire.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. On ne risque pas les effets secondaires des anti-inflammatoires classiques.
Exactement. Alors, on ne risque pas les effets secondaires des anti-inflammatoires classiques, mais aussi, ça n'a pas un effet aussi important qu'un anti-inflammatoire qui va arrêter la douleur en une heure. C'est vraiment des médicaments qui doivent être pris sur le long terme, plutôt par cure d'un mois et demi, et on sait maintenant que ça marche encore mieux si on arrête les cures, si on fait des cures tous les 2-3 mois, plutôt qu'en continu.
Et des médecines dites douces, telles que l'acupuncture, présentent également un intérêt pendant cette période hivernale, notamment sur les problèmes d'arthrose.
Oui, oui. L'ostéopathie, l'acupuncture, tout ça, ça peut aider vraiment les animaux qui sont vraiment touchés par des degrés d'arthrose importants, qui sont médicalisés depuis longtemps et sur lesquels les médecines allopathiques avec des médicaments ne font plus grand-chose, quoi.
Quelques conseils maintenant pour nos auditeurs qui partiraient à la montagne, donc dans un endroit enneigé ou qui habitent dans des régions où il y a de la neige. La neige, c'est à la fois l'ami des animaux parce que souvent ils adorent ça, mais en même temps, il y a peut-être quand même un petit peu de prévention à faire, notamment au niveau des pattes, des coussinets.
Alors, il y a les gerçures hein, de froid hein, qu'on peut avoir au niveau, tout à fait au niveau des coussinets, comme au niveau de la truffe hein, d'ailleurs, hein, parce que les chiens aiment bien fouiner dans la oui. neige, jouer dans la neige, et on peut tout à fait avoir ces mêmes gerçures au niveau de la truffe. Donc là, il y a différents produits. Il y a des produits très spécifiques qu'on peut avoir chez le vétérinaire avec une bonne rémanence qui reste longtemps au niveau des pattes. Il y a même pour les gens qui partent dans des randonnées pendant plusieurs heures dans la neige, des petits chaussons qui peuvent être mis. Mais quelque chose de très simple qui peut être fait à la maison dès que le sol descend en dessous de 2-3 degrés, qu'il est gelé ou sur lequel il y a de la neige, vous pouvez mettre de la vaseline, tout simplement.
De la vaseline sur les coussinets.
Alors, il faut en mettre régulièrement, hein, parce que celle-ci, ça part au fur et à mesure, mais sur les coussinets et aussi sur la truffe. C'est quelque chose qui est très hydratant.
Peut-être un petit mot concernant l'humidité, parce que l'hiver, il y a le froid, et puis il y a aussi l'humidité. L'humidité, c'est peut-être encore pire que le froid, non, à supporter pour nos animaux.
Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est que tout comme nous, hein, l'humidité, ça refroidit, ça diminue la température. Sur les échanges thermiques, c'est plutôt néfaste. Et puis, comme vous l'avez dit, hein, c'est clair que sur l'arthrose, les animaux qui sont arthrosiques le sentent tout de suite. Hein.
Un petit conseil aussi aux auditeurs qui nous écoutent et qui possèdent des chevaux ou des animaux qu'on appelle de rente, hein, qui vivent à l'extérieur, en prairie. Là encore, ces animaux souvent souffrent terriblement de l'humidité, beaucoup plus que d'un grand froid bien sec. Donc, pensez à les mettre à l'abri, pensez à leur donner du fourrage en conséquence. Et surtout, veillez à l'eau qui doit être à disposition, même quand il gèle. Hein.
Oui, alors l'eau doit être à disposition. Et pour l'humidité, les animaux de rente, les chevaux et les vaches. Souvent les vaches en cette période sont rentrées, hein, mais les chevaux qui passent l'hiver dehors, c'est le sol. Hein. Le mal vient du sol hein, chez les chevaux, hein, c'est clair.
L'humidité du sol, gale de boue, etc. Tous les propriétaires de chevaux connaissent ces problématiques, mais effectivement, il est toujours bon de rappeler tous ces conseils. Fabien Glodzinski, merci infiniment pour vos précieux conseils, comme d'habitude. C'était un plaisir de vous avoir dans Vos Animaux cette semaine. Très bonne fin de journée à vous. À suivre à l'état sauvage, on prendra soin cette fois-ci des oiseaux de nos jardins. C'est tout de suite.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, Vos Animaux, Natacha Harry.
Et dans Vos Animaux ce matin, nous parlons d'hiver. Tout à l'heure, nous verrons avec un représentant de la LPO, de la Ligue de Protection des Oiseaux, comment aider nos petits oiseaux du jardin à bien passer l'hiver. Que faut-il leur donner à manger? Quel type d'abri on peut leur mettre à disposition également dans les arbres? Vous allez voir, c'est assez technique. Donc, l'éclairage de cet expert sera le bienvenu. Et puis, dans C'est votre histoire, visite guidée d'une véritable arche de Noé qui se situe en Mayenne, près de Château-Gontier, en compagnie de son fondateur. Il s'agit du refuge de l'Arche. N'hésitez pas à témoigner, à nous appeler, à nous poser vos questions. 0826 300 300.
Mais pour l'heure, les questions veto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, Vos Animaux. Questions veto.
Et ce matin, on accueille Joël. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Bonjour Joël. Comment puis-je vous aider, Joël? Bonne année d'ailleurs. On va commencer par là. Bonne santé.
Merci. Bonne année, bonne santé à vous aussi.
Merci beaucoup.
Merci pour votre émission.
Merci Joël.
Moi, j'ai un souci avec une petite chatte qui a 4 ans maintenant.
Oui.
Qui est toujours à la maison.
Oui.
Qui ne part jamais parce qu'on habite une ferme, il y a beaucoup de bâtiments. Et là, je me suis absentée un jour et je suis partie à 3h l'après-midi. À 6h, elle n'était plus là.
Ah.
Alors, je ne sais pas, je peux peut-être passer une annonce. J'ai fait déjà pas mal de démarches, mais bon, j'y tiens beaucoup, évidemment.
C'était quand, Joël?
Alors, ça s'est passé au mois de novembre.
Ça date un peu.
Eh bien oui, ça date un peu parce que j'ai fait des recherches entre-temps. Après, il y a eu les fêtes, j'ai essayé de vous appeler, mais bon, c'est sûr que c'était les fêtes. Et donc là, c'est une petite chatte Isabelle, trois couleurs.
Oui, écailles de tortue.
Écailles de tortue, voilà, m'a dit le vétérinaire. Et
vous habitez dans quelle région, Joël?
Alors moi, je suis dans le Gers, je suis à Condon.
D'accord. Et j'imagine que vous avez déjà entrepris un certain nombre de démarches pour essayer de la retrouver.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, j'ai téléphoné à la SPA à Auch.
Oui.
J'ai téléphoné au refuge à Brac, à côté d'Agen, puisque moi, je suis entre les deux villes.
Oui.
Bon, là, ils ne me répondent pas. Je n'arrive pas à avoir de réponse.
D'accord.
Et ensuite, j'ai fait tout le voisinage. Parce que je connais
bien sûr, vous avez raison, il fallait commencer par là. Est-ce que vous avez appelé également les cliniques vétérinaires des alentours?
Voilà aussi, oui. Parce qu'il y a une clinique qui la suit pour
oui.
Ça. Et voilà. Et
elle s'appelle comment, Joël, votre petite chatte?
Elle s'appelle Lola.
Lola, d'accord. Et est-ce que Lola est identifiée par une puce électronique ou par un tatouage?
Et là, aïe, non, aïe, 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 aïe. Parce qu'elle ne part jamais de la maison.
Aïe,
donc,
mais vous voyez.
J'ai pas jugé utile. Voilà.
Ouais. Ben oui,
voilà.
Vous savez que c'est obligatoire, hein, l'identification des animaux de compagnie, des chiens, des chats. Oui. Et puis surtout, au-delà du caractère obligatoire, c'est surtout extrêmement utile pour les retrouver en cas de disparition. Parce que là, sans identification, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, elle a un peu l'âge qui est quand même, vous nous dites qu'elle est écaille de tortue, hein, donc ça veut dire de trois couleurs. Bon, oui. Ça, c'est déjà une caractéristique, mais il y en a d'autres, hein, des chattes qui sont de cette couleur-là. Moi, ce que je peux vous conseiller, Joël, c'est de refaire le tour des refuges, des cliniques vétérinaires, de mettre c'est tout bête, hein, mais de mettre des affiches, des photos avec votre numéro de téléphone en expliquant à quel endroit la chatte a disparu. Vraiment, essayer de mettre des affiches partout, chez le boucher, chez le boulanger, un petit peu partout, même dans les villages alentours, parce qu'un chat peut aller très loin et faut vraiment, vraiment pas hésiter. Et puis, contacter également les fourrières animales qui sont dans votre secteur, parce que peut-être a-t-elle été ramassée par une fourrière. Auquel cas, si elle a été ramassée par la fourrière, elle a pu être récupérée au bout de 8 jours ouvrés par un refuge. Donc, ça vous permettrait, si vous voulez, de retracer un petit peu la piste de votre chatte. Et comme elle n'a pas été identifiée, si elle a été recueillie par un refuge, ça veut dire qu'elle a pu être mise à l'adoption. On ne vous a pas recherché puisqu'on n'avait aucun moyen de vous rechercher. Donc, il faut vraiment même passer une annonce dans le journal local. Utilisez également les réseaux sociaux si vous êtes familière des réseaux sociaux, parce que c'est extrêmement efficace.
Hein, passer des enfants l'ont fait, oui.
Voilà, faut passer des messages sur Facebook et tous les réseaux sociaux locaux. Et puis il y a des sites spécifiques qui sont dédiés, des sites internet qui sont dédiés aux animaux perdus, aux animaux trouvés. Vous pouvez contacter Pet Alerte, voilà, des sites de ce type qui permettent justement d'utiliser la communauté des propriétaires d'animaux pour essayer de retrouver votre chatte. Mais vous voyez, Joël, votre histoire bien malheureuse nous permet quand même de rappeler ce bon conseil à tous les auditeurs de Sud Radio qui possèdent un animal de compagnie, c'est faites-le identifier. Et tenez à jour vos coordonnées dans le fichier, parce que il ne suffit pas que l'animal soit identifié, il faut aussi que derrière le numéro d'identification correspondent des coordonnées qui soient à jour pour pouvoir retrouver le propriétaire. Donc là, sans identification, battez la campagne, allez voir les refuges, les vétérinaires, mettez des petites annonces partout, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et puis quand même, on va terminer sur une note d'espoir, Joël. Sachez que il arrive assez fréquemment que des chats, des semaines, voire des mois, voire même des années après, reviennent chez leur propriétaire après un long périple. On ne sait pas toujours où ils sont passés, mais voilà. Parfois, ils reviennent. Donc, ne désespérez pas. Mettez-lui peut-être des petites choses à manger dehors, chez vous, à proximité. Peut-être pouvez-vous aussi créer une petite chatière pour qu'elle puisse rentrer si vous êtes absente.
Oui, parce que tout ça c'est fait.
Bon. Oui. Eh bien, continuez, ne perdez pas espoir. Et tenez-nous au courant si Lola revient, surtout.
Oui, je vous dirai oui. Puis si quelqu'un m'entend dans la région,
bien sûr.
Je fais appel à.
Voilà, passons une annonce. Rappelez-nous le nom de votre ville ou village.
Condon.
Voilà, donc Joël a perdu Lola dans la région de Condon. C'était au mois de novembre, donc ça date un petit peu. Une chatte écaille de tortue. C'est une couleur assez rare, hein, ça veut dire tricolore. Elle est blanche, noire et marron, couleur feu. Voilà un bon moyen peut-être de l'identifier. Bon courage à vous, Joël.
On espère qu'elle le retrouvera. En tout cas, c'est comme Joël, vous voulez poser vos questions à Natacha Harry ou ses invités. N'hésitez pas, 0826 300 300. On vous attend au standard de Sud Radio ou par mail à l'adresse jeparticipe@sudradio.fr.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et dans notre séquence faune sauvage, nous allons nous préoccuper des oiseaux de nos jardins. Pardon. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir de recevoir Richard Grèche. Bonjour Richard.
Bonjour madame.
Richard, vous êtes administrateur de la LPO Normandie. La LPO, c'est la Ligue de Protection des Oiseaux. Vous êtes animateur bénévole pour le compte de cette association. Alors c'est vrai que l'hiver, c'est un moment à la fois propice pour observer beaucoup d'oiseaux dans nos jardins, mais il peut aussi être important de leur donner un petit coup de pouce pour les aider à bien passer l'hiver. D'abord, quels sont les oiseaux que l'on peut observer en ce moment chez nous ? dans alors, nos latitudes.
Avant, en préambule, la protection, la LPO, c'est la protection de la biodiversité désormais. Donc, on s'occupe de toute la biodiversité. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, dans les jardins, bien souvent, les gens verront des mésanges, des chardonnerets, des verdiers, des pinsons, des rouges-gorges, voilà, plein d'oiseaux communs, mais qui sont en effondrement de population. Donc, il est important de leur donner un petit coup de pouce.
C'est vrai qu'il y a eu une étude assez récente qui a démontré vraiment que les oiseaux communs de nos jardins souffrent aujourd'hui de différents maux et voient leur population diminuer drastiquement. Beaucoup des petits oiseaux que l'on observe en ce moment dans nos jardins sont des migrateurs.
Alors, les oiseaux qu'on voit dans nos jardins sont pas forcément des migrateurs. Ce sont des oiseaux qui peuvent être là toute l'année, mais la notion de migration est beaucoup plus complexe qu'on nous a appris quand on était enfant. En fait, les rouges-gorges que vous voyez chez vous toute l'année sont pas forcément les mêmes rouges-gorges. Donc, les rouges-gorges qui sont en France, par exemple, oui, qui se reproduisent en France au printemps, ils descendent un peu plus bas et ils sont remplacés par des rouges-gorges qui viennent de plus haut en Europe.
C'est ça.
Donc en fait, vous avez des oiseaux toute l'année chez vous, mais ce n'est pas forcément les mêmes toute l'année.
Ce n'est pas forcément voilà, les mêmes toute l'année, parce qu'effectivement, voilà, des oiseaux du nord de l'Europe viennent voilà, dans notre pays, en France, pour passer l'hiver, pour trouver un climat un petit peu plus clément,
voilà,
on va dire.
Voilà.
Alors, oui, si on veut aider ces oiseaux, comment faut-il s'y prendre? Déjà, parlons de l'alimentation. Ont-ils besoin qu'on leur donne des choses à manger, ou est-ce qu'ils sont tout à fait capables de trouver tout ce dont ils ont besoin?
Alors, le problème des oiseaux, c'est que ils sont victimes de l'acharnement de l'espèce humaine à détruire tout, et notamment à faire ce que les gens appellent propre, et donc de couper toutes les plantes fanées qui ont des graines. Donc, les oiseaux, du coup, n'ont plus ces plantes en graines pour se nourrir en hiver, ce que la nature avait prévu. Et donc, du coup, certaines espèces sont victimes de ce manque d'alimentation. Alors du coup, l'espèce humaine peut donner un petit coup de pouce à la nature en leur donnant des nourritures appropriées.
Faut compenser ce que l'on détruit, voilà, en fait.
Et surtout pas avec du pain, par exemple, parce que le pain c'est salé, c'est pas bon pour eux. Et surtout pas avec des aliments à base d'huile de palme, parce que ça c'est catastrophique pour la planète. Mais par contre, on peut donner des graines de tournesol, alors bio de préférence. On peut leur donner des pains d'insectes. On peut leur donner des pains de graisse. Végétales, et voilà, on peut leur donner...
Alors, en fonction des espèces, j'imagine qu'ils ne mangent pas tous la même chose.
Voilà, donc alors, certaines espèces vont manger plutôt au sol et d'autres plutôt perchées, mais quand ils vont manger perchées, ils vont faire tomber des petites graines, et donc du coup, les rouges-gorges vont aller au sol picorer ce qui tombe. Et donc, en fonction de l'alimentation, effectivement, tous les oiseaux ne mangent pas la même alimentation, donc on peut varier, effectivement, c'est pas plus mal de mettre des pains d'insectes, des graines de tournesol, comme ça tout le monde va trouver son compte.
Tout le monde trouve son compte. Faut-il leur mettre également à disposition des abris, des petits nichoirs, voilà, des choses comme ça?
Oui, alors avant de répondre à votre question, ce qui est extrêmement important également, c'est leur donner à boire, et notamment quand ils gèlent. Paradoxalement, quand il gèle, les oiseaux meurent de soif avant de mourir de faim. Et donc, il faut leur mettre de l'eau de l'eau non pas chaude, et surtout pas avec de l'antigel ou d'autres produits,
bien sûr,
mais de l'eau à température ambiante. Et
il faut vérifier
renouveler
tous
souvent,
les jours que l'eau est propre et pas gelée.
2 cm, voilà, 2 cm, ça suffit. Et donc, pour répondre à votre question, on peut les aider également à leur faire des petits abris. Alors c'est tout simple, hein. Il suffit de prendre un nichoir normal et dont on a enlevé le fond, ou un cube dont
pourquoi
on enlève le fond.
Pourquoi enlever le fond,
alors, Richard? Parce que, on met un barreau à l'intérieur, et donc les oiseaux passent par en dessous et ils se perchent sur le barreau, et ils sont à l'abri des prédateurs et du vent.
Ah d'accord.
Et donc c'est pas très connu, mais
effectivement.
Pour l'instant, il y a assez peu de témoignages de ça, mais ça marche très très bien. Et les mésanges, notamment, se perchent dessus et sont à l'abri des prédateurs et du vent. Et ils viennent dormir dessus.
Anne-Marie.
Donc c'est tout simple. Oui.
On a une auditrice, Richard, qui souhaitait intervenir.
Anne-Marie nous appelle d'Arcachon. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour Natacha, bonjour à votre
invité. Bonjour Anne-Marie, très bonne année à vous.
Et meilleurs voeux à vous également. Alors, votre intervenant a répondu un petit peu aux questions que je me posais. parce qu'il est vrai que depuis un certain temps, je remarquais aussi bien en été qu'en hiver qu'il y avait beaucoup d'oiseaux sauvages au niveau de mon jardin.
Oui.
Et je me posais la question de savoir pourquoi ces animaux en fait se rapprochaient, je veux dire, des habitations. Donc autant l'hiver, ben, je dirais il y a ce problème de leur donner justement de quoi manger. Et c'était si vous voulez, ma question, mon interrogation. Mais en fait, votre intervenant a répondu en fait à ce que je souhaitais.
Eh bien, parfait, Anne-Marie. Ça veut dire qu'on remplit parfaitement notre rôle.
Oui.
Très belle journée à vous près de Bordeaux. Il fait froid en ce moment sur Bordeaux.
Oui, il fait froid. Il y a -4, -5.
Ah oui.
Donc c'est le moment de nourrir, je veux dire, nos oiseaux.
Nous faisons
régulièrement tous les matins, surtout avec les températures qu'il y a actuellement.
Eh bien, écoutez, on vous embrasse, Anne-Marie. Richard Grèche, je rappelle que vous représentez la LPO de Normandie. Donc, vous nous disiez qu'il faut donc mettre des abris en enlevant le fond. Donc, ça, c'est quand même une info, je pense, que nos auditeurs n'avaient pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses à éviter quand on veut mettre des nichoirs, des perchoirs, où on fait peut-être prendre un peu de risque à nos oiseaux avec des prédateurs comme les chats?
Alors, pour surtout ne pas oublier, là, si on enlève le fond, il faut mettre un petit barreau à l'intérieur pour que l'oiseau puisse se percher.
Hein. Sinon ça ne sert à rien. Voilà. On a bien compris.
Et donc on le met contre un mur ou dans un arbre et voilà. Alors pour répondre à votre question par rapport au chat, il y a des méthodes très simples et à coût zéro qui sont très efficaces. C'est de mettre du houx autour des mangeoires. Donc moi j'adore les oiseaux, mais j'adore également les chats, et c'est assez incompatible. Et donc pour que j'ai trouvé un modus vivendi entre eux, et donc il suffit d'enfoncer dans le sol des tiges de houx tout autour de la mangeoire, et vous verrez ça
va décourager les chats.
Les chats. Et vous mettez également des branches de houx perpendiculaires sur le mât de la mangeoire, ce qui fait joli en plus. Et les oiseaux adorent se percher dedans pour avant d'aller picorer leurs graines dans la mangeoire.
Et c'est parfaitement de saison. Richard Grèche, merci infiniment pour vos beaux conseils. Et vraiment, je le dis à tous nos auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à observer les petits oiseaux qui sont partout autour de nous. Même quand on habite en ville, il y a beaucoup d'oiseaux dans nos villes. Et n'hésitez pas à leur donner à manger et à boire pour qu'ils passent l'hiver, ainsi qu'un petit abri. On va se quitter quelques instants et on poursuivra avec la visite du refuge de l'Arche. À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et c'est l'heure de notre petite pastille linguistique avec Joëlle, notre amoureuse des animaux et des mots MOTS. Aujourd'hui, Joëlle, est-ce que l'on va prendre la mouche?
Absolument, Natacha, bonjour. Il y a énormément d'expressions autour du mot mouche et j'ai dû faire un choix là aujourd'hui. Donc moi, je vous propose de vous parler de l'origine de deux expressions, faire mouche et fine mouche.
Parfait.
Voilà. Alors, faire mouche, on parle là de la mode pour les femmes au XVIIe siècle, de se coller le visage sur le visage ou le décolleté, un petit bout de tissu noir, une sorte de grain de beauté, afin de mieux souligner la blancheur de la peau. Et ce teint pâle à l'époque était signe d'appartenance à la bonne société, permettait de se démarquer des autres classes qui étaient plus allées par la vie à l'extérieur. Et comme le point central d'une cible pour le tir à l'arc, les fléchettes, etc., ressemble de loin à un point ou à une mouche posée, eh bien faire mouche voulait dire viser le centre de la cible, et par extension, l'expression veut dire toucher son but, toucher un point sensible. Et eh bien en Angleterre et aux États-Unis, cette expression se traduit par toucher l'œil du taureau.
Tiens donc.
Ouais, parce que l'œil du taureau désigne depuis le XVIIe siècle le cœur de la cible, justement dans tous ces jeux de fléchettes, de tir à l'arc.
Très bien. Voilà. Et alors fine mouche?
Alors fine mouche, selon plusieurs sources, cette expression viendrait du sens argotique de mouche, qui déjà en 1389 désignait un menteur ou un espion astucieux qui arrivait à ne pas se faire démasquer. Et comme la mouche est un animal rapide et vif, difficile à attraper, et surtout qui peut observer sans être trop repéré parce qu'elle a des yeux à facettes, eh bien, toutes ces caractéristiques auraient conduit à forger l'expression « fine mouche » au XVe siècle, vers la fin du XVe. Et là, il y a un équivalent possible très mignon en anglais pour « c'est une fine mouche ». Ils disent que c'est un petit biscuit rosé.
Ah, effectivement, c'est adorable. Merci beaucoup, Joël, pour ces expressions fine mouche et fer mouche avec vous. On apprend toujours un tas de choses. Allez, tout de suite, c'est l'heure de C'est votre histoire avec la découverte d'un formidable lieu qui s'appelle le refuge de l'Arche.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Bonjour Christian Huchedet. Christian, vous êtes le fondateur de ce refuge de l'Arche. Vous pouvez nous rappeler où il est situé ?
Écoutez, le refuge de l'Arche, bonjour d'abord.
Bonjour.
Le refuge de l'Arche est situé dans le département de la Mayenne, donc en bordure de la Bretagne, à Château-Gontier plus précisément. Et effectivement, il y a 50 ans maintenant, à cause d'un cormoran qui avait été tiré par un chasseur avec des jeunes de Château-Gontier, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle le CEPAN, Club d'études et de protection des animaux de la nature. Et nous avons donc, au fil des ans, accueilli des milliers d'animaux. Et donc, il a fallu faire un refuge pour que ces animaux puissent passer une vie tranquille et mourir paisiblement après avoir eu des grandes difficultés.
Alors, je le disais en introduction tout à l'heure, le refuge de l'Arche, pour nos auditeurs qui connaissent ce lieu, c'est une véritable arche de Noé. Des refuges, il y en a beaucoup en France, mais le vôtre est vraiment très spécifique parce que vous accueillez toutes sortes d'animaux, y compris des animaux appartenant à la faune sauvage et des animaux exotiques. Vous pouvez nous expliquer d'où viennent tous vos pensionnaires ?
Alors, effectivement, nous avons deux activités qui sont liées. La première, donc, c'est le recueil des animaux de la faune sauvage que nous recueillons, que nous soignons, que nous relâchons. Et donc ça, c'est le centre de sauvegarde, puisqu'on a une installation spécifique pour ça.
Donc ça, c'est la faune sauvage française.
Française, oui. Et puis alors, autrement, il y a tous les autres animaux qui proviennent de chez des particuliers, qui les détiennent dans de mauvaises conditions, illégalement, ils proviennent de saisie, donc, et puis, quelquefois, le propriétaire décède, on a un cas en ce moment, il faut absolument accueillir les animaux, là, c'est pas très compliqué, parce que ce sont des colombes, mais du jour au lendemain, on est face à des problèmes qu'il faut résoudre dans l'urgence.
C'est toute la difficulté d'ailleurs de votre activité, c'est qu'en principe les animaux arrivent en situation d'urgence et il faut être capable de les accueillir dans de bonnes conditions, c'est ça le plus dur certainement.
Oui absolument, alors au fil des ans on a réussi à se structurer grâce aux dons, à quelques legs, puisque maintenant l'association est reconnue d'utilité publique, donc on a la possibilité de recevoir des dons et des legs. Et on a un secteur qu'on a aménagé pour justement les urgences comme ça on a une possibilité d'accueil qu'on n'avait pas il y a 20 ans par exemple. On a vraiment modernisé et concrétisé ces grosses installations.
Alors votre refuge se visite, vous allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais ça se visite un petit peu comme un zoo, entre guillemets, même si l'expression n'est pas la plus adéquate qui soit, mais les visiteurs c'est important aussi pour vous aider, pour vous soutenir et pour faire passer des messages, j'imagine.
Voilà, absolument. Donc effectivement, pour pouvoir faire ces 1600 animaux qu'on a en permanence, il faut trouver de l'argent, donc on a ouvert au public. Mais en même temps, on a des démarches pédagogiques, c'est-à-dire que sur chaque parc ou installation, on a un panneau qui explique pourquoi l'animal est là, d'où il provient. Et en même temps, on a, depuis quelques années, surtout l'été, mis en place des animations avec une éthologue et puis d'autres animateurs pour expliquer justement la vie de ces animaux qui sont là et la vie qu'ils ont eue, eux, particulièrement. Et sur chaque cage, justement, il y a la description de l'animal, mais il y a aussi une phrase qui explique pourquoi l'animal est arrivé chez nous.
Oui, parce que chaque animal a sa propre histoire et vous mettez vraiment un point d'honneur à raconter ces histoires à vos visiteurs. Vous avez parmi vos pensionnaires des animaux, entre guillemets, très exotiques. Ce n'est pas un refuge pour chiens et chats classiques, voire animaux de la ferme. Ça va bien au-delà de ça.
Ah oui, absolument. Les chats, les chiens, nous ne sommes pas habilités pour les récupérer. Mais bon, Les associations sont présentes dans tous les départements français, alors que pour les autres animaux, on est un petit peu tout seul. Bon, y a
qu'est-ce que vous recueillez, par exemple ? Citez-nous quelques espèces emblématiques du refuge de l'Arche ou quelques-uns de vos pensionnaires emblématiques.
Alors là, déjà, on a une grande quantité d'oiseaux exotiques, dont beaucoup de perroquets, une cinquantaine de perroquets. On a 200 singes qui viennent de laboratoires ou qui ont été saisis. À une époque, la grande mode était d'avoir des singes magots à la maison.
Cette mode s'est un peu passée, fort heureusement.
Oui. Je crois que les actions qu'on a tous menées au niveau de la protection animale a fait que les gens réfléchissent un peu plus maintenant. Et puis bon, la détention est interdite, il y a des lois qui sont arrivées. Donc heureusement, on accueille beaucoup moins de ces singes. Et puis bon, on a des tigres, des lions, des panthères qui souvent proviennent, eux, de cirques ou de chez des particuliers qui les détiennent illégalement. Et là, on voit des choses absolument abominables. Quand on récupère les animaux de cirque, on voit que leur vie avant n'a pas été très très rose et avec des comportements
de maltraitance.
Qui surprennent. Oui, c'est à la limite. Hein. En même temps, effectivement, on sait très bien que un lion qui tourne dans 3 mètres, enfin 9 mètres carrés dans une cage n'a pas des réflexes normaux.
Comment avez-vous réussi au fil des années à construire finalement cette capacité d'accueillir des animaux qui nécessitent un personnel adapté? Enfin, voilà, on ne peut pas mettre un tigre, un lion ou une panthère n'importe où. J'imagine que ça a été un long travail pour former vos équipes et construire aussi des capacités d'accueil de ces animaux.
Alors pour les structures, pour la construction, on avait la chance dans notre secteur d'avoir une fabrique de grillage, une fabrique de parpaings, un grossiste en ferraille. Donc on a réussi à avoir des matériaux à bas prix, c'est ce qui nous a permis d'évoluer. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire la même chose dans un autre secteur de France. Donc ça, c'est une grande chance pour nous. Et puis, on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris sur le terrain. En même temps, je suis allé voir dans d'autres parcs. J'ai fait quelques stages aussi. Et puis, là, maintenant, on a une équipe très soudée. Mon fils a pris la direction. Moi, je supervise d'un peu plus loin. Et puis, nous avons une équipe de soigneurs, donc des gens qui ont eu des formations. On a aussi une vétérinaire en permanence.
Tout cela montre en fait l'importance prise aujourd'hui par le refuge de l'Arche d'une aventure qui démarrait du sauvetage d'un oiseau. Vous voilà aujourd'hui à la tête d'une véritable Arche de Noé.
Absolument, mais je crois qu'on peut aussi féliciter la communauté de communes du pays de Château-Gontier qui nous a fourni des terrains, qui nous a épaulés dès le départ. Le département qui nous a aidés pour des projets bien, bien précis, et puis la région de Pays de Loire également. Donc, mais ça s'est fait au bout de 40 ans d'existence.
Voilà, ça s'est fait au fil de l'eau. Quels sont vos pensionnaires les plus emblématiques, Christian ?
Je pense que ce sont les tigres, les lions, les panthères, on a des ours aussi. Oui. Mais les singes, on a un groupe important de babouins à récupérer aussi au fil des ans. On a un groupe sur des îles qu'on a aménagé au milieu d'un plan d'eau, un groupe d'une centaine de babouins. Donc ça, c'est un peu le clou de la visite quand les gens viennent, parce que ce sont des animaux qui bougent beaucoup, qui se chamaillent, qui se courent après, qui jouent ensemble.
Oui, c'est toujours très visuel et très drôle de les regarder vivre ensemble.
Oui. Et là, quand on a un animateur qui est à proximité, il peut expliquer et ça permet de prendre tout de suite contact avec les visiteurs et ça se passe généralement très bien.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, de l'avenir pour ce refuge de l'Arche ? Parce qu'aujourd'hui que vous êtes à la tête, vous et votre fils, d'une structure vraiment de taille très importante, j'imagine que les projets ne manquent pas chez vous.
Oui, absolument. Là, la municipalité, la communauté de communes nous a attribué, il y a 2 ans maintenant, des prairies qui entouraient le refuge. Maintenant, on arrive par 25 hectares de surface. Et là, on est en train d'aménager. Donc, en ce moment, on est en train de terminer des parcs à félins pour pouvoir les installer encore mieux qu'ils ne sont, même s'ils sont quand même pas trop mal là où ils sont. Et puis, nous avons une grande prairie où les buffles peuvent pâturer. Donc là, c'est une prairie qui fait 5 hectares.
Très bien.
On a beaucoup d'aménagements comme ça en cours.
Merci beaucoup, Christian Huchedet. Je rappelle le nom de votre refuge. Le refuge de l'Arche, c'est à visiter en Mayenne, près de Château-Gontier. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un excellent week-end et un très, très bon début d'année. À la semaine prochaine pour vos animaux.
Sud Radio, vos animaux.
Avec Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com.